L'amphi, l'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Comme vous le savez, j'affectionne particulièrement les librairies, même si j'essaye de ne pas y aller trop souvent parce qu'entrer dans un lieu rempli de livres me fait entrer dans une folie d'achat compulsif. Mais vous savez ce que j'aime aussi ? Le thé. Donc le rêve, ce serait un salon de thé qui fait aussi librairie. Eh bien, devinez quoi ? Il y aura bientôt un tel établissement au Mans. Chez Chatyshire est un projet porté par Charlotte. Bonjour Charlotte.
Salut, ça va ?
Est-ce que j'ai bien prononcé le mot ?
Ça, on peut le faire comme on veut. Okay, ça finira en chez Chat, je pense.
Super, formidable. Alors, on va parler de ton projet plus en détail dans quelques instants. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous présenterons le travail d'un photographe, Réa Chiroudot, qui inaugure son studio le 15 mars prochain. Bonjour Réa.
Salut.
Alors, puis nous passerons aux chroniques étudiantes avec la chronique de Julie. C'est parti tout de suite pour notre premier invité du jour.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fou et plus on s'emmerde.
Bonjour Charlotte, tu es porteuse du projet chez Chatyshire qui doit ouvrir ses portes très prochainement à la fin de ce premier trimestre 2024. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous parler de toi et comment tu en es venue à vouloir ouvrir un salon de thé librairie ?
C'est une idée que j'ai eue il y a 16 ans.
Ah oui, ça date.
Donc ça date un peu. Sauf que le monde n'était pas prêt. En tous les cas, notre ville ne l'était pas. Et je me souviens avoir été à la chambre de commerce et d'industrie avec ma petite vingtaine d'années en disant « Bonjour, j'ai une idée, je voudrais ouvrir un salon de thé. » Et on m'a répondu « Ah, parce que vous pensez que vendre un thé à 2 balles, ça va payer le loyer ?» J'ai fait « Bah, c'était l'idée, en fait, je voulais savoir comment on allait faire. » Enfin, voilà. Ça s'est arrêté aussi sec que ça. Et je suis repartie chez moi en me disant « Bon, bah non, je vais pas ouvrir de salon de thé, parce que visiblement, c'est pas l'idée. » Et en fait, bah, j'ai travaillé toutes ces années, donc je pense qu'il y a aussi des choses qui doivent arriver à point nommé dans la vie. Et c'était pas le moment, je devais, à mon avis, avoir d'autres expériences, faire autre chose de ma vie. J'y ai pensé pendant toutes ces années, quand ça allait pas, dans les moments où, vous savez, on n'est pas trop bien et on se projette dans un autre monde en se disant oh, « Mais si j'étais dans ce monde-là, ce serait trop bien. Bah, » Moi, j'étais dans une librairie et un salon de thé et du coup, je construisais tout mon petit truc. Okay. Donc voilà un peu comment est venue l'idée et pourquoi je la réalise aujourd'hui. Bah, parce que c'est le moment. C'est maintenant et c'est pas un D'accord. autre moment et tout se met en route. Donc tous les rouages sont bien assemblés et tout est OK.
Et pour ce moment, il a fallu attendre 16 ans. C'est quand même vachement long, 16 ans
Eh bien, il y a la vie qui fait que. Il y a plein de choses qui sont passées dans ma vie qui ont fait que ce n'était pas maintenant. Je pense que j'ai aussi dû acquérir un peu plus de maturité, d'expérience et des armes pour affronter tout ce qui est la création d'une entreprise. Et je peux dire que je suis contente d'avoir attendu finalement.
Alors d'où est-ce que te vient cette affection pour les livres ? T'as pas fait d'études littéraires du coup ?
Pas du tout, j'ai même jamais été en littéraire puisque moi j'ai fait des études en pro. Donc du coup, autant vous dire qu'à part le technique et français, maths, histoire, il n'y a pas grand chose qui se passe. Okay. On n'est pas du tout au fait de la culture, donc non, c'était pas ça. Je sais que j'ai toujours plus ou moins lu, mais vraiment en tant que petite lectrice. Et puis il y a eu un événement personnel il y a 3 ans qui a fait que je me suis replongée dans les livres et ça a été un peu salvateur pour moi.
Okay.
Et j'ai découvert en fait sur Instagram Bookstagram, donc c'est la même chose sauf que c'est que des gens qui parlent de livres et c'est les hashtags qui sont un peu différents et je me suis dit « Ah mais c'est sympa ça comme communauté !» Donc voilà, je suis partie là-dessus.
Et alors qu'est-ce que tu aimes en fait dans la littérature ?
J'aime tout. Enfin j'aime tout. En général j'aime les polars. Polar, thriller, horreur, ça, c'est le classique, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Et notamment, là, j'ai découvert la fantasy à fond. Et ça, c'est un domaine qui me plaît bien, puisqu'on part dans un autre monde. Et j'aime bien partir dans d'autres mondes. Je trouve ça beaucoup plus fun que le nôtre.
Alors, quand on lit un peu la description de ton projet, on voit que c'est plus spécifiquement qu'une librairie. C'est une librairie de l'imaginaire, ou librairie imaginaire, je ne sais plus exactement comment c'est formulé. Qu'est-ce qu'il faut entendre en fait par librairie imaginaire ou de l'imaginaire ?
Eh bien, en fait, il n'y aura que certains genres à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va retrouver de la science-fiction, du fantasy, du fantastique, sûrement de l'horreur. Pas encore accès, mais il y en aura sûrement. De la romantésie, parce que les gens adorent la romance.
C'est quoi la romantésie ?
Eh bien, c'est de la romance dans un univers fantasy.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais, là, on mélange les trucs et tout.
C'est particulier, hein. Moi, je sais que je lis pas forcément de romance parce que je m'y retrouve pas, mais il y a beaucoup de lecteurs qui sont friands et l'idée, c'est de pas trop en mettre de côté, même si forcément je secte. C'est violent quand même, mais je mets juste un thème tout simplement parce que celui-ci n'est pas trop représenté dans les librairies qu'on a au Mans. Okay. Et il y a beaucoup de lecteurs qui sont friands de ces thèmes, mais qui ne vont pas avoir tous les livres et qui finissent par commander sur Amazon. Or que souvent, les lecteurs adorent commander dans leur librairie et pas forcément en ligne. Mais parfois, pas le choix, quoi.
Et alors, pourquoi tu as cette préférence pour les littératures de l'imaginaire ? Qu'est-ce que tu trouves de plus que dans les autres styles ?
Parce que c'est moins le monde. En fait, c'est vraiment tu voyages, ça te coûte rien, c'est génial. Enfin, ça va te coûter 20 balles, 25 balles le prix d'un livre, c'est carrément moins cher qu'un billet d'avion, je trouve. Donc ça c'est chouette. Tu vas voyager, tu vas passer sur un autre univers, tu vas pas être avec le monde et moi ça me plaît bien parce que franchement, c'est pas fun. Le monde qui nous entoure, il est vraiment pas cool. Moi, je le comprends pas perso, mais après je l'ai jamais compris, donc ça me paraît normal. Je comprends pas qu'on fâchier autant sur des sujets qui regardent que les gens, voyez-vous, et qu'on prenne du temps sur des trucs mais qui sont complètement idiots. Et moi, ça me dépasse. Et en fait, j'ai pas envie de vivre ça. Et je me dis non, en fait. Enfin, ok, il faut combattre. Il y a des gens qui vont être adeptes, mais moi, j'ai qu'une vie. Je veux en profiter et je veux qu'elle soit belle, en fait. Donc, je recherche que le bonheur et ça passe par là.
Donc, toi, la littérature de l'imaginaire, elle t'intéresse dans le sens où elle permet un parallèle au monde réel, quoi.
C'est ça.
Mais en même temps, c'est aussi une littérature qui essaye de parler du réel par métaphore, par le détour,
oui,
etc.
Oui, aussi. Mais j'ai pas envie de lire d'avoir cette lecture-là. Je l'entends hein, quand je la lis. Il y a pas de souci. Je vois toutes les façons de lire possibles. Mais clairement, j'ai pas envie non plus de le lire. Et quand souvent c'est trop réel, je me dis s'en fout.
Et alors, comment t'as eu l'idée d'associer salon de thé et librairie ?
Parce que je suis une grande fan de thé.
Okay.
Et c'est très compliqué de boire du thé aujourd'hui, dans tout, partout. Vous allez quelque part pour boire un thé, on vous propose un Lipton. Alors maintenant, ça a upgradé, on est sur du Daman, c'est quand même un peu mieux. Et c'est toujours compliqué. Et dans les salons de thé qu'il y a, moi je suis frustrée parce qu'on me propose 3 thés. Quoi. Et je me dis, non, mais moi j'ai envie de boire autre chose, j'ai envie de quelque chose d'autre. Et surtout aussi, j'ai envie d'un lieu cosy. Et dans salon de thé, il y a le mot salon, ça doit être un truc qui passe un peu à la trappe chez beaucoup. Mais moi, j'adore être dans mon canapé ou dans mes fauteuils avec mes plaids, mes coussins, d'avoir un gros bol de thé et de profiter au max de ce moment-là.
Le confort, c'est important, quoi.
Ah, moi, c'est super important, franchement. Qui n'aime pas être cocooning ?
C'est vrai. C'est... Alors, comment va se présenter un peu, comment ça va se présenter au niveau de l'agencement de l'espace ? Est-ce qu'il y aura le salon de thé d'un côté et la librairie de l'autre ou les deux seront mélangés ?
J'ai eu la chance de trouver le lieu qui correspondait en tout point à mon imaginaire, donc d'accord. Ça c'était chouette. Et effectivement, on aura bien un espace librairie et un espace salon de thé. Donc les deux seront bien distincts, mais ils communiqueront par un passage, pas secret, mais par un passage. je vais éviter d'ouvrir la partie salon de thé, notamment l'hiver, pour éviter d'avoir cette porte affreuse qui s'ouvre quand on est posé et où on se gèle les miches. Donc là, ce sera bien fermé. Il faudra passer par la librairie. Les livres sont à acheter à la librairie. Donc en fait, on ne peut pas les prendre pour aller dans le salon de thé sans les acheter.
On ne pourra pas emprunter les lieux.
Non, c'est vraiment une librairie, pas une bibliothèque, du coup, dans ce sens-là. Et dans cette librairie, il y aura aussi le comptoir pour le salon de thé et coffee shop, puisque j'ai aussi fait une formation de barista. Donc, du coup, j'ai une option. À la base, ça devait être juste une option, coffee shop, mais je crois que ça va être un petit peu plus. Donc, on pourra retrouver plein de choses.
Et alors, juste du coup, ce local, il est où ?
Il est 10 Place Saint-Michel. C'est en face de la cathédrale.
D'accord.
Vous ne pouvez pas vous louper. Hein. C'est en face du menhir.
Et alors, tu disais sur la question de l'emprunt et de l'achat, tu disais oui, c'est une librairie, pas une bibliothèque. Mais il y a des endroits qui existent où tu peux emprunter le livre le temps où tu es là pour ta conso et ensuite l'acheter si tu as envie. Pourquoi ne pas fonctionner de cette manière-là ?
Parce que ce sont des livres neufs. Et si quelqu'un mange en même temps qu'il lit son livre et qu'il met ses doigts bien gras sur toutes les pages ou qu'il fait tomber un morceau de chocolat dessus, ce n'est plus un livre neuf. Donc, je ne pourrais plus le vendre tel quel. Et moi, je ne les achète pas en livre d'occasion. Je les achète en livre neuf. Pourquoi il y a une différence ? Parce que le prix du livre en France est unique. Ce qui fait que les marges ne sont pas énormes.
D'accord.
Et je ne peux pas me permettre en fait, de renvoyer un livre. Il faut qu'il soit en état neuf. Et si je ne peux plus le vendre, eh bien, c'est tout de ma poche. Donc, je pense que je fermerai aussi vite que j'ouvre.
Mais alors pourquoi cette préférence pour le neuf plutôt que l'occasion ?
Parce qu'on a déjà 6 librairies d'occasion sur Le Mans qui sont bien fournies. Et en plus, si vous regardez dans ces librairies d'occasion, trouver de l'imaginaire, c'est archi compliqué aussi.
D'accord.
Il y en a très peu. Parce que je pense que les lecteurs de l'imaginaire, ils gardent leurs livres, clairement, ils n'avaient pas les données, c'est mort, ils les ont dans la bibliothèque à vie. Donc voilà, c'était un choix de ce côté-là, parce qu'il y en a très très bien des librairies d'occasion, et je trouvais qu'il n'y avait pas matière à en rouvrir une énième.
Bah c'est beau de penser aux libraires d'occasion qui existent déjà. Mais alors pour avoir un peu bossé justement dans une ou deux de ces libraires d'occasion, en fait, les gens peuvent apporter de la littérature de l'imaginaire, pas mal de SF notamment, ça peut être de la vieille SF. Mais en fait, c'est juste que les libraires d'occasion ne sont pas forcément intéressés par cette littérature-là parce qu'ils ont une clientèle qui est plutôt orientée sur de la littérature classique, etc. Et du coup, ça se vend pas chez eux, en fait, quoi. Mais du coup, ça, moi, je pense que ça peut éventuellement être une piste. Ah, ouais, voilà,
ce sera à creuser.
Ouais. Ça marche. Est-ce que du coup, tu es toute seule sur ce projet ou est-ce que tu devras gérer les deux aspects salon de thé et librairie ?
Je gère tout toute seule.
D'accord, ok.
Ça va être un peu sport.
Ouais, ça va être compliqué.
On va pas se mentir, ça va être sport, mais c'était pas possible de faire autrement. Donc,
Alors, tu comptes faire comment ? Du coup, tu vas te dédoubler ? Comment ça va se passer ?
Je vais être principalement au comptoir, en fait.
Okay. Hein,
et tout le monde devra passer par là pour toutes les commandes. Tout, ce qui fait que quand j'aurai personne pour les commandes, j'aurai du temps aussi pour la librairie et parfois je laisserai patienter. Enfin, on verra, l'organisation ne peut pas être définie tant que j'y suis pas.
D'accord.
Parce que il y a plein de choses entre ce que j'ai dans la tête et ce qui va se passer en vrai. À mon avis, il y aura un petit fossé.
Et comment est-ce que tu vas te fournir en livre ? Ça marche comment en fait ?
Donc en fait, c'est grâce à mon code NAF, c'est mon inscription au CABIS qui fait que je suis libraire. Donc ça, c'est le côté pro. Et grâce à ça, en fait, j'ai pu m'inscrire aux diffuseurs de livres qui existent.
Okay.
Donc par exemple, on a Hachette Livre, qui ne va pas fournir que du Hachette, qui va fournir plein d'éditeurs différents. Et donc il y en a plusieurs comme ça, il faut les trouver. Il y a des listes. Et ensuite, il faut s'inscrire à ces diffuseurs de livres. Donc là, c'est assez fastidieux comme exercice, mais ma foi, on s'y inscrit. Et puis, une fois qu'on est inscrit, on a des comptes d'ouvert et on peut commander les livres.
D'accord, ok. Mais du coup, pour chaque éditeur où tu veux recevoir des livres, il faut que tu aies un compte chez ces éditeurs-là ou fournisseur de livres, quoi.
Chez le diffuseur de livres.
D'accord.
C'est-à-dire qu'un diffuseur va regrouper plusieurs éditeurs. Hein.
D'accord, ok.
Là, j'ai dit Hachette parce que c'est celui qui me venait en tête, mais il peut y avoir Interforum et qui va regrouper d'autres éditeurs. Mais ce n'est pas un seul diffuseur qui regroupe tous les éditeurs. Ce serait vraiment trop bien. C'est ça.
Ça serait bien pratique.
C'est ça.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le titre étrange que tu as choisi pour ton salon de thé librairie ?
Tu trouves que c'est étrange ?
Je trouve étrange, oui. Avec tous ces cheux, là. C'est même pas facile à prononcer. En radio, c'est très compliqué.
C'est difficile pour tout le monde. Et c'est du coup le parti pris. Parce que quand j'ai annoncé ça, que ce soit à mon comptable ou à la personne qui crée mon site, ils m'ont dit : t'es sûr du nom ? J'ai dit : oui, c'est génial. Pourquoi ? Parce que le chat.
J'ai pas dit que c'était mauvais, j'ai dit que c'était bizarre.
C'est bizarre, mais c'est moi. Donc jusqu'ici, tout va bien. En fait, c'est le chat du Cheshire.
Oui, qui
dans
est donc
Alice, qui est le chat qui disparaît, qui est un peu fou. Si vous voyez un peu Alice. J'adore cet univers-là parce que ça me correspond. C'est un univers un peu loufoque et très coloré, qui est un peu à part. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Je m'appelle Charlotte et je voulais aussi qu'on vienne dans un lieu où on allait chez quelqu'un. Donc vous allez venir chez moi. Donc le chez chat, c'est pour le chez Charlotte, mais ça faisait un peu la meuf qui se la pète à vouloir appeler son entreprise chez chat, quoi, chez elle. Donc je trouvais ça un peu bizarre. Le chat, c'est le diminutif de Charlotte, donc il n'y a pas de T à la fin, c'est pas un chat. Et chez Cheshire, parce que ça faisait du coup l'allusion au chat du Cheshire d'Alice.
Okay, ça marche.
Ah, c'était très recherché, hein.
Et sinon, symboliquement, il a une importance pour toi, ce personnage du chat du Cheshire ?
Il est juste fou, il est bizarre, il est lui, et il s'en fiche du reste du monde. Et je pense qu'effectivement, il m'a parlé, il a résonné un peu en moi.
Alors, c'est quelle version du chat du Cheshire auquel tu penses ? D'ailleurs, celle du Disney, plutôt ?
Toutes. Celle de Tim Burton, celle de Disney. Oh, moi, j'aime tout. Je suis pas chiante comme fille.
Et alors pourquoi avoir pas choisi plutôt le personnage du chapelier ? Parce qu'on aurait pu faire un truc aussi. Parce que le chapelier donne une partie de thé en plus dans le conte.
Oui, mais ça m'est pas venu. Il fallait faire des choix. J'ai pas été aussi loin dans ma recherche, je t'avouerai. On était posé avec un pote en train de chercher un nom. Et puis du coup, on était là chez Charlotte, chez Chat, nanana. Puis à un moment donné, ça a fusionné. Et voilà, on s'est arrêté là.
Mais du coup, le monde d'Alice au Pays des Merveilles sera mis en avant au niveau de la déco et tout ça ?
Pas forcément, puisque là, c'était vraiment histoire de faire un petit combo entre mon prénom et Alice, mais ce ne sera pas que le thème d'Alice. L'idée, c'est vraiment qu'on soit sur de l'imaginaire, donc on peut retrouver plusieurs thèmes à l'intérieur. Ça va dépendre de mon inspiration, de ce que je trouve.
Alors, pour en revenir à l'aspect salon de thé, de quoi est-ce qu'on pourra se sustenter à l'intérieur ?
Vous aurez du coup le petit déjeuner, je pense, le matin, donc café, croissant, brioche, pain au chocolat. Ensuite, on va partir sur des viennoiseries, ce qu'on appelle sèches, parce que je n'ai pas de CAP pâtissier. Et en plus, je serai revendeuse, parce qu'on ne va pas se mentir, on l'a évoqué, au niveau timing, ça va être un petit peu compliqué de tout faire. Donc, je travaille avec un boulanger qui est près de chez moi, pour le coup, pas près d'ici, mais de chez moi. On reste au Mans. Et on fera des fondants au chocolat, on fera des financiers, on fera des cookies. Alors là, pour le coup, c'est moi qui les ferai, les cookies. Mais voilà, ce sera des petites choses comme ça. Et ensuite, pour le midi, on partira sur des sandwichs. Donc, on va créer un pain qui va être un gros pain comme une miche qu'on avait à l'époque. En fait, je veux que le pain soit moelleux sur la mie et ferme avec un tour croustillant.
Donc, toujours avec le boulanger dont tu parlais ?
Avec le même boulanger, oui.
Donc, ensuite, ce sera que de l'artisanat, du coup, enfin de l'artisanat connu.
Oui. C'était l'idée. Je ne voulais pas faire quelque chose d'industriel et je n'avais pas le temps et toutes les compétences pour le faire moi-même. Donc, je délègue certaines tâches.
Et donc, du coup, on pourra aussi manger le midi, quoi. Ça fait pause goûter et midi, quoi.
Exactement.
Limite, on pourrait passer l'après-midi là-bas, en fait.
On pourrait passer la journée entière.
Alors, est-ce qu'on peut t'aider à financer ce projet, s'il n'est pas déjà complètement financé ?
Il n'est pas complètement financé parce qu'il y a forcément des couacs comme dans tous les projets, j'ai envie de dire. Et j'ai mis en place un financement participatif à Ulule, qui est encore valable jusqu'au 19 mars et qui aura des contreparties qui sont égales à la somme que vous mettez en soi.
Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler les infos pratiques pour terminer ? Où est-ce qu'on peut, par exemple, où est-ce qu'on peut consulter la cagnotte ? Est-ce que tu peux rappeler l'emplacement du local et la date d'ouverture prévue ?
Donc, vous pouvez retrouver le lien de la cagnotte sur l'Instagram, chez Chat Cheshire. Vous allez trouver assez facilement. Il faut juste taper le chat du Cheshire d'Alice, ça vous donnera l'orthographe. vous allez retrouver donc le lien Ulule qui est à l'intérieur, ce qui est beaucoup plus simple parce que j'ai un compte TikTok et Facebook, mais je les alimente un petit peu moins. Je suis un peu moins à l'aise que sur Insta. Donc, vous retrouverez tout sur Insta ou vous m'envoyez un message, peu importe. Le local, il est toujours en face de la cathédrale, donc juste où il y a le menhir. Vous n'allez pas vous tromper. C'est sûr. De toute façon, vous le verrez, il y aura le nom. Et l'ouverture, eh bien, c'est encore assez aléatoire.
D'accord.
Puisque je viens de décaler déjà mon ouverture d'une semaine. Alors, personne ne le sait, puisqu'il n'y a que moi qui avais mis une date. Mais les travaux du local ne sont pas finis. Donc, tant qu'ils ne sont pas finis, je ne peux pas ouvrir, puisque moi, j'ai aussi un temps d'aménagement à avoir. J'espère pour avril.
Ok.
Et on croise les doigts. Et dès que j'ai une date, je pourrai la communiquer.
On croise les doigts, effectivement. En tout cas, n'hésitez pas à aider Charlotte pour concrétiser son projet avec l'aide de la cagnotte. Petite dernière question par simple curiosité. Est-ce que tu peux nous donner deux ou trois livres, auteurs à lire absolument ?
Absolument non, parce que je trouve qu'on a tous une vibe différente. Moi, par contre, les livres qui m'ont vraiment plu, ça a été du young adulte, notamment La passe miroir de Christelle Dabos.
Okay.
La passeuse de mots d'Alaric et Jennifer Twice, Agitoy, je ne sais pas trop comment on le dit. J'ai eu cela, j'ai eu Sorcier aussi de Maxime Fontaine et Romain Watson. Là, on est vraiment sur de la fantasy young adulte. C'était les livres qui ont le plus résonné. Après, ce n'est pas absolument à lire parce que ça va être trois thèmes différents et ça dépend de chacun, de ce qu'on aime. Donc, c'est toujours délicat, je trouve, de donner comme ça les livres à lire, sachant que je n'ai pas discuté avec
C'est juste l'idée de donner des conseils de lecture.
Mais voilà, les livres que je peux conseiller là aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup Charlotte pour nous avoir parlé de ton projet chez Chat Cheshire. On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Ella Atone d'Amaria et En attendant Anna le 15 mars à Jean Carmet en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite on écoute Solane Rome.
Je me sens comme un agneau qui dit pardon au loup d'avoir été trop lent à lui offrir son cou, d'avoir pris trop de place, d'avoir trop résisté, d'avoir vu sa robe de rouge s'attacher. Cette jungle me doit des mea culpa à l'appel à marcher entre Raotorien. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. mes insomnies sans l'ombre d'une main qui flotte et se pose sur ma cuisse. Cette ville me doit des mea culpa, la chaîne à marcher entre les rois qui tuent les reines. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi.
De retour dans l'amphi, et je suis à présent avec un artiste photographe du Mans, Réa Chirodo. Bonjour.
Salut.
Alors, nous allons présenter un peu votre travail et parler d'un événement important pour vous, puisqu'il s'agit de l'inauguration de votre salon Place de la Sirène, le 15 mars. Mais avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours? Comment vous en êtes arrivé à faire de la photo votre métier?
J'ai fait plein de choses. J'étais claire d'avocat. J'ai eu un resto, j'ai fait un milliard de trucs et j'en suis venue à la photo il y a 10 ans maintenant, par l'autoportrait, donc c'est assez souvent moi que je photographie aussi les autres. J'en suis venue à la photo pour travailler sur des sujets un peu forts et aller contre, ou en tout cas survivre à certains événements de vie assez complexes. Que j'ai exprimé à travers moi-même. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à m'entraîner en faisant du mariage et puis à apprendre en studio, okay. à m'associer à des photographes et puis après à devenir portraitiste de France et faire des studios photos.
Et alors, est-ce qu'il y a des photographes ou des artistes qui vous ont inspiré pour former votre propre style?
Alors, assez peu en réalité, parce que je trouve qu'il est complexe de se former un style en regardant les autres. J'ai toujours très peur, alors tout a été fait. Si on part de là, tout a déjà été fait. Mais j'ai toujours très peur de la comparaison. Je suis un être éminemment nombriliste et convaincu d'être brillant. Donc j'ai pas du tout envie qu'on puisse me comparer à qui que ce soit d'autre. J'avoue que je me suis peu inspirée du travail des autres. Par contre, j'ai beaucoup appris auprès de mes collègues, de mes confrères portraitistes, notamment au Mans d'ailleurs. Je suis arrivée au Mans comme ça, donc voilà.
Ok. Et alors, quel est votre objet d'intérêt privilégié? Plutôt paysage, portrait?
Portrait.
Portrait,
l'humain, l'émotion, le nu, beaucoup.
Ok.
Non, c'est vraiment l'humain. C'est,
et alors, gratter. Pourquoi cette préférence?
Merde. Pourquoi l'humain? Parce que je crois que je l'aime. Je suis très amoureux de l'humain, et de beaucoup d'humains d'ailleurs. Et y a quelque chose d'assez fascinant dans le fait d'aller gratter derrière ce qu'on voit et de libérer quelque chose. Alors, je ne suis pas du tout photothérapeute et je fais très attention à ça parce que je trouve ça assez dangereux. En fait.
Photothérapeute, c'est
oui, c'est un truc à la mode qui consiste à dire aux gens: viens chez moi, je vais te montrer que tu es belle après 3 heures de maquillage et 15 heures de coiffure et regarde comme tu es belle.
Ouais.
Et montre-moi tes blessures profondes. Bah, en fait, il y a des médecins pour ça. Mmh. Et moi, par contre, j'aime bien faire vivre aux gens une expérience. C'est vraiment une expérience qui parfois les révèle un peu à eux, mais qui surtout leur permet de cocher une case qu'ils n'ont pas cochée dans leur vie, quoi. C'est assez foudroyant comme expérience.
Est-ce qu'il y a des thèmes du coup que vous abordez à travers ces portraits?
Sur la personne que je vais photographier, je vais aller chercher en elle. Donc, ce sera des thématiques qui lui seront propres. Et ça peut être énormément de choses, du coup, puisque je vais aussi photographier de la famille. Je vais photographier de la famille recomposée. Donc, on va travailler sur la famille qu'on construit, qu'on déconstruit, qu'on reconstruit. Mais à titre plus artistique et donc personnel, parce que c'est des choses que je mets en œuvre sur moi, je travaille beaucoup sur le deuil périnatal, donc la mort d'un enfant avant la naissance. Mmh. Je travaille sur l'alcoolisme, je travaille sur la maladie de Charcot, la charge mentale des femmes, la transidentité, puisque je suis un homme trans. Voilà, la transmutation, tout un tas de choses incroyablement gay et qui en fait rendent la vie très très belle, mais voilà.
Et alors, est-ce que vous discutez beaucoup avec vos clients? D'ailleurs, j'emploie le mot client, je ne sais pas si c'est le mot que vous utilisez.
Oui, oui, oui.
Et vous discutez beaucoup avec eux pour justement faire la photo qui leur parle autant qu'à vous, en fait?
Oui, et tout à la fois, je crois que c'est extrêmement instinctif. Mmh. En fait, quand les clients me demandent de me rencontrer avant une séance, en général, je leur dis que même une rencontre avant, si je les vois 2 semaines plus tard en séance, ils n'arriveront pas du tout dans le même mood. Je ne serai pas non plus dans le même mood. Et je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire avant de le faire. D'accord. Mais vraiment.
Okay.
Quand on me dit on va faire quoi, je ne sais pas. Ça se passe comment? Mal. Et voilà, donc on discute énormément, mais il y a surtout... C'est une ambiance qui est très, à la fin, très silencieuse. On est dans le noir, je travaille avec une lumière monosource qui vient d'en haut. C'est assez particulier.
D'accord. Il y a un côté presque un peu rituel, non?
Oui, carrément. Ouais.
Un peu mystique.
C'est ça, et puis à la fin, tout le monde saigne et tout ça. Non, je... ça arrive parfois, seulement quand on me demande.
Alors, quand on explore un peu votre œuvre, on remarque que vous faites surtout du monochrome. Alors, pourquoi cela?
Parce que je ne fais pas confiance à l'œil. Je me suis aperçue en faisant de la couleur que l'œil fait bien ce qu'il veut. On peut toujours essayer de diriger le regard vers l'œil, vers l'objet de la photo sur lequel on voudrait qu'il aille. L'œil, lui, le cerveau, te dit « Ah, tache de couleur !» Et il va regarder la tache de couleur.
D'accord.
Et en fait, tu vas perdre le sujet de ton image. Je trouve que quand on arrive à tout enlever d'une image et à ne garder que l'essentiel, et les couleurs en font partie, et à avoir un maximum d'ombre et très peu de lumière, et qu'il n'y a plus rien à enlever, on a réussi quelque chose.
D'accord.
Mais c'est dur.
Ça purifie l'image en quelque sorte, le noir et blanc?
Ouais. Okay. Oui. Et puis ça, moi qui fais beaucoup de nus aussi, ça enlève un côté très charnel à la peau.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est comme une pose peut être très différente en fonction du fait qu'on ait ou pas un regard dans la caméra. Un corps nu en noir et blanc et un corps nu en couleur va pas du tout faire appel aux mêmes choses dans le regard de la personne qui observe l'image.
Ok. Donc un corps nu en noir et blanc, c'est moins érotique ou sensuel ou charnel qu'en couleur.
Ouais.
D'accord. Comment vous l'expliquez, ça?
Si je l'expliquais, j'aurais plus de métier. Je sais pas du tout. C'est une excellente question. Sincèrement, je pense qu'il y a un côté sang, peut-être, dans la couleur de la peau. Peut-être quelque chose de plus facile à regarder aussi quand on regarde un nu en noir et blanc. Ça arrive souvent, j'ai beaucoup dans mon studio d'œuvres de moi nu en autoportrait en noir et blanc. Et je pense que les gens auraient plus de mal à me regarder debout à côté d'eux s'ils voyaient un nu de moi en couleur, avec moi en couleur à côté. Ce côté noir et blanc fait que tout de suite, c'est une photo. Donc c'est pas totalement vrai.
D'accord.
Voilà, et ça rend le nu plus regardable.
Ça marche. Alors du coup, il apparaît dans vos photos une importance très prégnante de l'ombre, du contraste. Qu'en faites-vous en fait de ces jeux de lumière?
Je trouve que les ombres sont plus intéressantes que les lumières. Je trouve qu'il y a des zones d'ombre, mais parce que ma vie a été remplie de zones d'ombre et que je trouve magnifique, on a une fâcheuse tendance à essayer de dégager les ombres et à mettre de la lumière partout pour qu'il n'y ait pas d'ombre. Et on fait la même chose dans notre vie, quoi. Et je trouve que c'est là qu'on a des profondeurs dans les ombres qu'on n'a pas dans les lumières, à mon goût. Et j'aime qu'une image soit sujette à interprétation et que parfois il faille forcer un peu le regard pour aller chercher ce qui se passe dans une ombre. Ça demande beaucoup de finesse en photo et en tirage, parce que je ne fais que du tirage, donc un tirage doit être bien fait pour le restituer. J'ai une fascination en fait pour cette zone où il y a presque trop d'ombre, mais pas encore assez pour qu'on soit complètement mal à l'aise, mais quand même, on n'est pas très bien.
D'accord. Donc l'essence de l'image, elle est aussi dans ce qu'elle montre pas, en fait.
Ouais.
D'accord.
Elle est dans l'interprétation qu'on en fait.
Mais du coup, j'ai eu l'impression, moi, en consultant vos photos, qu'il y avait Il y avait un peu un espèce de sentiment de fantastique, un peu, non ?
Oui, alors j'essaye de... sur certaines images, notamment la plus connue et celle qui sera sur la porte du studio.
On parlera tout à l'heure.
Ouais. Il y a quelque chose où je vais aimer employer, enfin utiliser des biais. Alors ça va être très souvent des choses mortes, parce que je trouve que c'est important. Il y a un côté vanité. Alors c'est les vanités picturales qui m'ont fait ça à l'origine. Toutes ces œuvres avec des crânes, des bougies, des choses comme ça. Et donc je vais chercher là-dedans. C'est vrai que ça s'apparente à de la fantaisie, ça s'apparente à pas mal de choses dans ce genre-là. Moi, ce que j'aime, c'est, alors pour le coup, s'il y a un artiste qui m'a inspiré, j'aime énormément Dali, pas pour l'homme, mais pour l'œuvre. Ouais, je sais. Mais parce que son œuvre me dérange au sens où elle est extrêmement déséquilibrée et gênante, et pourtant elle interpelle tellement qu'on n'arrive pas à en détacher le regard. Donc ça va être ce genre de choses qui va me plaire.
Alors par contre, vous avez parlé de fantaisie et tout ça, je voudrais juste préciser que c'est pas vraiment ce que j'entendais par fantastique.
Ouais.
Je parlais plutôt du fantastique, comme on peut en parler chez Maupassant avec le
Horla.
Enfin, oui. Justement, tout ce qui appelle à l'ombre surnaturel, en fait, plus qu'au merveilleux.
D'accord. Alors le Horla, c'est marrant parce que c'est le nom d'une photo que j'aime beaucoup, enfin d'une œuvre que j'ai faite et que j'aime beaucoup. Et oui, là pour le coup, le Horla fait partie des œuvres qui m'ont inspiré. Je vais plus m'inspirer justement d'œuvres littéraires, de Baudelaire, entre autres. Voilà.
C'est plus à ça que je pensais, effectivement.
Ouais. Ouais. Alors oui, je pense que pour le coup, il y a un côté, il y a quelque chose dans l'ambiance, dans cette espèce de malaisance qu'il y a dans leurs œuvres. Donc c'est là que je vais aller chercher.
Ça marche. Alors par exemple, justement, on va parler de la photo que vous évoquiez tout à l'heure, sans en dire trop. Pour promouvoir l'inauguration de votre studio, le 15 mars, vous mettez en avant un autoportrait, pour le moins singulier, puisque s'échappe de votre bouche ce qui semble bien être les tentacules d'un véritable poulpe qui s'enroule et s'accroche à votre visage. Alors, aux chers auditeurs et auditrices, vous devez être assez interloqués quand vous m'entendez là. Je vous conseille d'aller voir, c'est surprenant, c'est très surprenant et c'est angoissant, il y a un certain malaise qui s'en dégage quand même. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette photo ?
Ouais. Alors l'exorcisme, c'est le nom de l'image, ouais, c'est le nom de l'œuvre. C'est une photo que j'ai réalisée il y a 2 ans maintenant, je crois, un jour de colère innommable, où j'avais l'impression que les hommes avec lesquels je partageais ma vie, les amis, la famille, tout, essayaient petit à petit de me prendre tellement de choses que je vivais au milieu d'une charge mentale monumentale, et j'avais beau hurler que c'était presque trop, ma douleur n'existait pas vraiment, c'était normal. En même temps, j'étais assignée femme à la naissance, j'ai 5 enfants, c'est normal de galérer, quoi. Et ce jour-là, j'ai été dans une espèce de furie qui m'a prise devant le rayon poisson, en l'occurrence. J'étais très inspirée par une œuvre qui s'appelle Le rêve de la femme du pêcheur, qui est une gravure un peu très érotique, japonaise. Et j'ai eu envie de matérialiser cette charge mentale, ce truc qui dégueule de partout et qui te prend, en fait.
C'est la gravure avec le poulpe, justement.
Voilà. Oui. Qui a été réinterprétée sur mon bras par Bloody Mary de façon plus regardable, parce que sinon, je pouvais.
C'est Okudzai, je crois, l'artiste, il me semble. Ouais.
C'est ça. D'accord. Et donc voilà, j'ai acheté ce poulpe et puis je me suis allongée sur du béton, j'ai mis l'appareil à l'envers sur moi et j'ai craché une espèce de fureur qui était pour le coup carrément dégueulasse. J'ai réalisé 4 photos, là, sur la 4e je vomis les tentacules, parce qu'elles sont vraiment, c'était trop. Et donc cette image est sortie et ouais, je l'aime très fort parce qu'elle n'est pas... Elle est marquante, elle est choquante, tout en n'ayant rien des codes du choc qu'on pourrait avoir sur un autoportrait féminin. En l'occurrence, à l'époque, j'étais encore une femme. Il n'y a pas de nu, même si je suis nue, en fait, sur l'image, dans les faits, mais ça ne se voit pas. Elle est dérangeante, tout en étant esthétique. C'est vraiment une image que j'aime beaucoup et qui me ressemble, je crois. Donc, je suis dérangeant et esthétique.
Et puis là, pour le coup, on parlait de fantastique tout à l'heure. Là, même si je pense que c'était pas l'intention, il y a quand même eu un vrai, enfin pas une référence du coup vu que c'est pas intentionnel, mais moi j'ai directement pensé à Lovecraft par exemple. Avec, ouais. Voilà.
Oui.
Je pense que c'était pas le but. Mais
non,
du coup
parce
ça crée vraiment ce sentiment de force extérieure, enfin de quelque chose de mystique quoi. Vraiment.
C'est, oui. Alors mystique, je pense que c'est vraiment le mot. Et d'ailleurs quand on sort ce genre d'image, il y a toujours un avant et un après. C'est presque terriblement frustrant de sortir ce truc et de se dire putain j'ai plus rien après quoi. et de repartir sur une nouvelle phase de réflexion jusqu'au moment où on va, je vais dire un mot horrible, mais éjaculer un nouveau truc assez énorme, quoi. Voilà.
Ça marche. Alors, cette photo a été publiée dans le magazine Photo. Est-ce que vous avez connu d'autres consécrations comme celle-ci ? Est-ce que vous voulez nous parler d'ailleurs de cette publication ?
Cette publication est très chouette. J'en suis très content. c'est pas le. Ouais, c'est. Alors, c'est pas une fin en soi d'être publié dans ce genre de magazine. La fin en soi, pour moi, est d'exposer et de voir ses œuvres partir, vivre chez les gens. La fin en soi, je crois, est d'avoir son nom sur une œuvre qui survivra après nous. Ça, c'est mon côté
même
mégalo.
Même celle-là, vous voudriez vous en séparer ? Peut-être que c'est déjà fait, déjà.
Alors, elle est déjà... La première édition est vendue. Voilà, quelqu'un qui est très précieux, d'ailleurs. La deuxième édition est au studio présentée pour la soirée. Il y en aura 5 éditions. Voilà. non, je préfère les expositions plutôt que les publications.
D'accord.
Parce qu'elles sont l'occasion de discuter, notamment quand je travaille sur... Autoportrait à la nature morte, qui est l'œuvre que j'ai la plus exposée, c'est une série. Ça me permet d'organiser des conférences sur le deuil périnatal, de faire venir des médecins, de parler de ce sujet un peu dingue, d'expliquer que, eh bien, il y a des associations en France, et moi, hors association, qui vont dans les maternités photographier les bébés morts pour que les parents aient des souvenirs. Ça existe, et en fait, ouais, les expositions permettent de mettre les deux pieds dans les sujets dont on ne veut pas parler pour changer un tout petit peu le monde, petit bout par petit bout.
Et alors, pour revenir juste brièvement au fait que vous vendez vos photos, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de douloureux à se séparer de ces... Quel rapport est-ce que vous avez à vos objets, en fait, vos objets photos ?
Je les aime, mais profondément. C'est-à-dire qu'une photo qui ne pourrait pas sortir, ça m'est arrivé d'avoir... une incapacité à sortir une image parce que, par exemple, quelqu'un m'a aidé à la faire et refuse que je me crédite ou refuse de la vendre ou refuse de... C'est un autoportrait à deux et cette personne est dessus et ne veut pas. Pour moi, c'est horrible parce que, étant parent de 5 enfants, je peux me permettre de le dire, on m'éventre. Voilà, on m'enlève quelque chose qui fait qu'en fait, sinon, j'aurais pas de raison de vivre. Je vis pour qu'elles sortent, je vis pour qu'elles aillent chez les gens, je vis pour qu'elles leur parlent, pour qu'elles leur fassent du bien ou du mal d'ailleurs, selon les jours. Mais j'ai besoin qu'elles vivent, qu'elles soient parfaites, et j'ai besoin de les voir partir et accrocher quelque part. Je suis triste quand elles s'en vont. Et je reçois toujours des petits messages, tu sais, c'est comme si j'avais donné une portée de chatons et qu'on m'envoyait des photos de mes chatons qui grandissent. Et ben, on m'envoie des photos, des œuvres.
Des photos.
Et puis je les vois, j'ai un ami qui a acheté une très belle œuvre de lui, là, il n'y a pas longtemps. Et quand je vais chez lui, je suis tellement heureux de la voir. Et à chaque fois, je revis ce moment, et lui aussi.
Alors, est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de l'inauguration de votre studio le 15 mars ? Comment ça va se passer ?
Mal.
Ça va être un carnage.
Ouais, grave. Ça va être une très très belle soirée. Je me suis entourée de gens assez fabuleux. J'ai eu une chance incroyable en arrivant au Mont qui m'a fait tomber amoureux de cette ville, de rencontrer notamment les tatoueuses de chez Boudoir Brutal.
On les reçoit demain d'ailleurs.
Ouais,
demain,
elles viennent
17.
Demain. qui sont devenues des amies très très proches. Donc elles seront à la... Alors, sur cette soirée, on va faire des choses qui sont assez immersives et performatives. Donc c'est pas une inauguration où on vient, on boit un verre et on se casse. C'est une soirée privée, donc le nombre de personnes est limité et c'est une soirée payante.
D'accord.
Parce que il faut rémunérer les artistes, etc. Donc les filles de Boudoir Brutal tatouent dans la salle qui est à côté de la salle de piano, pour les gens qui ont connu le Baccarat, le salon de thé. À côté de la salle de piano, il y a un très joli bureau doré dans lequel les filles vont tatouer des flashs qu'elles créent depuis mes œuvres pour l'occasion. Donc il y aura des tentacules, des araignées, voilà, des couronnes, des choses qui font penser un peu à ce que je fais. Ce seront des œuvres uniques, des œuvres de peau. On dévoilera aussi l'œuvre qui a été réalisée par Bloody Mary de Boudoir Brutal sur la peau d'une amie dont je tais le nom encore pour le moment, depuis l'autoportrait au poulpe.
D'accord.
C'est-à-dire que Marie a dessiné cette œuvre qu'elle a tatouée il y a 2 jours sur une cuisse. Wow. Donc j'ai officiellement ma tête sur le cul de la dame. Je crois que ça me plaît.
C'est un honneur.
Oui, un peu. Et c'est quelqu'un que j'aime très fort. Et donc l'œuvre sur peau, en l'occurrence, sera dévoilée ce soir-là sur une stèle. Voilà. On va avoir Diana Higby qui gérait le baccarat avant, donc qui est chanteuse et qui va chanter. On a Grégoire qui est concertiste et qui va jouer un moment et qui va aussi accompagner une magnifique performance de Shibari, où je serai suspendue par Amaury Grisel, qui est un shibariste assez extraordinaire.
Alors Shibari, en quelques mots, ce que c'est ?
Des cordes japonaises, ça n'a rien à voir avec le bondage, c'est mille fois mieux, et on ne fait pas l'amour.
D'accord.
On peut, mais pas ce soir-là. Et voilà.
Ça va être un carnage.
Ça va être un carnage, non. C'est très émouvant. Et c'est vraiment magnifique, c'est quelque chose de très beau à voir, c'est une discipline, hein. Ça s'apparente un peu au tango quand on y pense et c'est très beau. Le Vaude va réaliser des cocktails sur place, ils ont créé des cocktails pour l'occasion. C'est Swan du Vaude à qui j'ai dit « j'adore la truffe, j'adore le poivre », elle m'a fait un cocktail avec de la truffe et du poivre. C'est extraordinaire et à toute élégance je l'ai appelé le « squirt ». Parce que la soirée s'appelle Réa inonde le Mans, donc allons-y gaiement, tant qu'à être élégant. Et donc
c'est
voilà,
subtil.
Donc c'est le Vaude qui régale. Et puis donc voilà, Boudoir Brutal, un trio de jazz manouche, Djangoline, enfin plein de choses super chouettes.
Et alors qu'est-ce que ça représente l'ouverture d'un studio pour vous ?
C'est pas le premier studio que j'ouvre.
Ah d'accord.
Et c'est le premier que j'ouvre seul.
Okay.
Et ce lieu me ressemble, c'est un lieu qui est trop magnifique, mais ouais, presque trop. On dirait un mini château. En fait, il y a une forme de consécration et au-delà de ça, un endroit dans lequel, pour le coup, celui-ci en l'occurrence, je me sens parfaitement chez moi et à ma place. Enfin, il m'était destiné, je l'ai trouvé en quelque chose comme 5 minutes. Ça s'est fait, ça devait se faire. J'ai mon premier métier, c'était la chanson et la propriétaire est chanteuse. Il y a un piano à queue magnifique, ma mère était pianiste, elle est morte de la maladie de Charcot, il y a plein de trucs qui font que cet endroit était pour moi. Donc je veux le partager en fait.
Ok.
Voilà.
Eh bien merci beaucoup, je pense qu'on va arriver à la fin de cet entretien, même si j'avais encore beaucoup de questions à poser. Simplement, est-ce qu'il est possible de consulter vos travaux quelque part ?
Oui, alors mon Instagram, Réa, donc avec un H. Réa Chiroudo officiel. Il y a le site internet, donc reachiroudo.com. Et puis après, c'est surtout de l'exposition. Donc là, il faut s'abonner à l'Insta, puis il faut venir me voir. Voilà.
Et c'est possible de vous servir de modèle ? Si oui, comment ?
Alors, je fais partie de ces photographes qui estiment que tout travail mérite salaire. Donc je ne réalise pas de collaboration. C'est-à-dire que les gens qui veulent poser pour moi payent pour qu'on réalise ensemble une œuvre d'art.
Ah oui, mais ça c'est naturel.
Voilà, je préfère le dire, mais parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah, j'aimerais trop, c'est bien !» Oui. Alors oui, avec grand plaisir. Faut savoir qu'en ce moment, j'ai ce gros besoin de sortir du silence des gens qu'on cache, les corps différents, tout ce qu'on essaye d'invisibiliser parce que c'est pas supposé rentrer dans les ronds, les carrés et machin. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une recherche que j'ai où là, c'est un vrai montage de projet artistique personnel. Et là, il suffit de me contacter en fait s'il y a des choses à dire. Si c'est pas juste pour être beau ou belle, s'il y a des choses à dire, ouais, faut m'appeler, ouais.
Ça
carrément.
Marche. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Réa Chiroudo, pour nous avoir parlé de votre activité de photographe. Merci.
Merci à toi.
On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour des femmes respectables à Eve le 21 mars. Et tout de suite, on écoute donc le morceau choisi par Réa, la 3e sonate au clair de lune de Beethoven.
Thank you.
De retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et on est avec Julie. Salut Julie.
Bonsoir.
Hop, voilà, j'avais oublié d'activer ton micro.
Bonsoir.
Comme d'habitude, voilà, on ne change pas les bonnes habitudes. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Eh ben moi, je vous refais une petite chronique sophro, du coup, parce que je suis sophrologue. Et bien heureuse de vous proposer une petite chronique que j'ai appelée « Bien dans ses baskets ». L'idée étant de proposer voilà, une petite relax minute. Et ce soir, j'avais très envie de vous parler de gratitude. Alors, pas dans un terme galvaudé, mais plutôt dans cette idée que souvent, peut-être, il y a des journées qui peuvent nous paraître super lourdes et où on ne sait pas trop comment s'en défaire. Et quand on va à la recherche ou à la quête de « et au fait, est-ce que j'ai eu des moments chouettes aujourd'hui ?» Bah, y a des choses qui peuvent émerger et qui peuvent vraiment aussi nous faire sentir que peut-être la journée, elle a une autre tonalité, une autre couleur. Alors si vous êtes d'accord, je vous propose juste un petit temps de relax minute, d'immersion, comme tu disais tout à l'heure, de retour à soi, dans lequel on va juste tenter d'aller à la rencontre d'une gratitude peut-être d'aujourd'hui. Alors si vous êtes d'accord, je vous invite juste à vous étirer quelques instants, à bâiller si ça vient, à prendre de bonnes respirations. Alors, je le répète à chaque fois dans cette chronique, mais si vous conduisez ou si vous faites quelque chose qui demande de l'attention, restez concentrés et vous referez cette pratique lors d'un replay. Voilà, de trouver aussi une posture assise confortable, soit vous avez les pieds au sol, soit vous êtes en lotus, mais en tout cas d'avoir une posture assise confortable. Et puis, on pourra juste tranquillement laisser les yeux se fermer, si c'est OK pour vous. Et l'idée de fermer les yeux, c'est juste de revenir dans un espace plus intérieur. Je vous rappelle qu'en sophro, c'est vraiment un espace de bienveillance, de non-jugement, en tout cas d'être bienveillant avec soi. Et puis, si vous le sentez, de prendre une ou deux bonnes respirations, peut-être même de profonds soupirs, comme pour libérer peut-être les tensions de la journée, et sentir que petit à petit, sur chaque expire, on revient un peu plus dans la présence à notre corps. C'est fondamental en sophrologie, c'est ce retour pour habiter notre corps. Plus présentement, là. De bien sentir nos pieds, nos fessiers, l'alignement du dos, la tête, tel que c'est. Vraiment sans rien forcer. Et puis, peut-être qu'on peut amener une sensation de calme sur le front. En tout cas, une sensation qui fait du bien. Vous pouvez co-créer avec moi, tout est OK. Ça peut être un ciel bleu, ça peut être un sourire, ça peut être la sensation d'un rayon de soleil. Sentir qu'on dépose cette sensation sur le front, comme pour mieux le libérer, le relâcher. Vraiment en totale sécurité, là ensemble, ces quelques minutes. De libérer aussi les yeux, les mâchoires. Et surtout de bien respirer. Comme pour mieux s'asseoir en soi. Alors ce soir, il a été question de jolis lieux qui nous étaient proposés. Moi, je vous invite que ce soir, on trouve ce lieu cosy en nous-mêmes. Peut-être qu'on peut le trouver vraiment là, en nous-mêmes. Alors on s'y assoit, en nous-mêmes. Et je vous propose qu'on laisse émerger une gratitude de la journée. Alors derrière ce mot gratitude, entendez peut-être un moment qu'on a franchement bien aimé, qui nous a fait du bien. Peut-être un sourire dans la rue. Peut-être un coup de téléphone qui a été chouette. Peut-être d'avoir dégusté un bon gâteau, un bon café. Peut-être d'avoir flâné dans les rues. Peut-être un gros hug, un câlin. Peut-être qu'on a lu un livre qui nous a passionnés. Juste de laisser revenir un moment de la journée qui nous a plu. Et puis, une fois qu'on l'a, ce moment de la journée, un peu comme la Madeleine de Proust, on le laisse s'installer en nous. En activant nos cinq sens, on essaye de retrouver les couleurs, les parfums, les fragrances, peut-être les textures sur la peau, peut-être des mélodies, peut-être des saveurs. Et en sophrologie, on utilise beaucoup la respiration pour activer en nous toutes ces images ressources. Alors à l'inspire, je vous invite à inspirer ce moment de gratitude et tout ce qui a été bon pour vous dans ce moment joliment vécu aujourd'hui. Et sur l'expire, laissez-le s'installer en vous, comme si vous pouviez l'offrir à vos cellules, le capter encore un peu plus, le vivre. En sophrologie, on parle beaucoup de vivance, dans cette idée de le vivre pleinement. Et on le fait peut-être encore une fois. J'inspire ce moment qui m'a plu aujourd'hui. Et sur l'expire, je le laisse s'installer, comme si je pouvais encore m'envelopper de sa fragrance, de son parfum, de ses bienfaits. Et tout en laissant notre respiration être calme, tranquille, naturelle, peut-être qu'on peut simplement observer nos sensations au contact de ce souvenir, de cette gratitude. À quel endroit du corps ça joue? À quel endroit du corps on le sent, on le ressent? Comment? Juste d'être des explorateurs, exploratrices là, en nous-mêmes, quelques instants. Et respirez bien, surtout. Alors, on est maintenant prête à revenir sur le chemin de cette émission, peut-être nourrie des bienfaits de ce joli moment qui est revenu dans notre mémoire. Je vous invite tout tranquillement à reprendre de bonnes respirations, de bonnes expirations, peut-être à vous étirer comme un chat jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts. Et puis de revenir peut-être autrement, différemment, nourri de ce petit temps de retour à soi. Bienvenue.
Merci Julie pour ta chronique sophro, encore une fois. J'en vois qui s'étire comme le chat du Cheshire, voilà. Fallait que je la place, c'était obligé. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi l'amphi. La prochaine aura lieu ce jeudi 7 mars pour une émission spéciale sur le tatouage, avec le boudoir brutal notamment. On retracera les grandes lignes de l'histoire du tatouage, on entrera dans les coulisses du métier des tatoueurs et des tatoueuses, et on s'interrogera sur ce qui pousse les gens à se tatouer, ou bien au contraire, à résister à ce qui de signe marginal est devenu une tendance. À bientôt dans l'amphi.
C'était l'amphi. L'émission étudiante.
Étudiante.
Radio Alpa, l'alternative.